Bienvenue au club, jusqu'à 19h sur France Bleu Normandie.
Bienvenue au club, effectivement, on parle de football avec Manuel Quesnel. Bonsoir Manuel.
Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Donc bienvenue au club ce soir, retour sur le 7e tour de la Coupe de France de football. Bide repetita pour le HAC, dont on ne compte plus les couacs depuis 30 ans dans une coupe qu'il a pourtant été le premier club de Ligue 2 à remporter. Le HAC battu 3-2 par Évreux, qui signe là par contre un bien bel exploit. C'est Mohamed Benmansour qui a marqué le but vainqueur sur pénalty. Ainsi va le football. Il y a 8 jours, Évreux avait raté 2 pénaltys justement en championnat. La totale pour QRM, match raté et défaite de 1-1. Brook face à une équipe qui évolue 4 divisions en dessous et en bonus, silence radio. À la fin du match, c'était la consigne du coach, les joueurs l'ont respecté. Manu Lacosta, lui, ne s'est même pas présenté devant nous, on va en reparler. Et le FCR, eh bien le FCR repassera, terrain impraticable et match remis, donc hier à Saint-Brice. Pour parler de ce match qui n'a pas eu lieu, et du reste, le milieu de terrain du FCR, Jérémy Prieur, un vrai cul rouge, et ce soir l'invité de Bienvenue au Club. Bienvenue au Club, c'est parti, jusqu'à 19h ce soir. À la technique, c'est Alexandre Buret qui filtre les entraînements.
Bienvenue au Club. Et puis évidemment, si vous voulez réagir à ce week-end Coupe de France ou interpeller notre invité, vous êtes également bienvenu au club. Vous pouvez nous appeler au 02 35 07 66 66.
Il est frais comme une rose, car c'était repos pour lui ce week-end de repos forcé, Jérémy Prieur. Et ce soir, notre invité, bonsoir Jérémy, bienvenue au club.
Bonsoir, merci.
Au repos forcé, car votre match de Coupe de France à Saint-Brice dans le Val-d'Oise a été remis. Vous l'avez appris quand ?
On l'a appris une heure avant le match, on s'était déplacé, on repas à l'hôtel, etc. Et au moment qu'on... traditionnelle visite d'avant-match du terrain, on voit les arbitres qui nous expliquent que ça sera compliqué pour jouer ce match qui est remis dimanche.
Le terrain était dans quel état ?
C'était compliqué à certains endroits, je pense qu'il était praticable sur d'autres. Mais il aurait suffi d'une averse pour que ça se complique et je pense qu'au fur et à mesure du match, le terrain se serait détérioré.
Donc pas de Rouen-Évreux en championnat la semaine prochaine, mais place à la Coupe de France, c'est le déplacement à Saint-Brice. Ça sera la même heure, 15h ?
C'est ça, dimanche 15h, c'est prévu comme ça, donc après, à voir s'il y a une modif ou pas.
Jérémy, vous êtes dit quoi quand vous avez appris, un, que QRM avait été sorti à Hasbrouck par une équipe qui évolue 4 divisions en dessous, et deux, qu'Évreux, qui dispute le même championnat, avait éliminé le HAC ?
Que Villon l'a appris avant notre match. Donc, avant le déplacement, donc on s'est dit, faire attention, parce que nous aussi, on se déplace chez plus petit. Donc, c'est là où on se rend compte que la Coupe de France, ça devient vraiment, vraiment compliqué pour les gros clubs. Ça vraiment, quand on se déplace à l'extérieur, ça nivelle le niveau. Et pour Évreux, félicitations à eux, parce que franchement, le HAC était plutôt pas mal en championnat. C'est une équipe qui joue bien en ballon. Moi, j'ai vu quelques-uns de leurs matchs sur beIN. Donc, je les ai trouvés vraiment bons, le HAC. Et de voir vraiment Évreux éliminer le HAC, ça a été une surprise même pour nous.
Alors on va revoir tout ça en son, sauf pour ce qui est de QRM, puisque son entraîneur Manu Lacosta a eu la mauvaise idée de demander à ses joueurs de se taire pour les protéger, ou pour se protéger, peu importe. Ce qui fait qu'on a eu le droit à la sortie des autistes, les plus sympas marquant un petit temps d'arrêt, pour nous dire que c'était la consigne, silence radio, les plus polis nous disant quand même bonjour, et les autres penauds détournant la tête ou regardant au loin, très loin, sans même nous accorder un regard. Pour être complet, j'ajoute que Manu Lacosta lui aussi n'a pas pipé mot, il n'a même pas eu la correction de venir sans expliquer avec nous, de passer devant nous, informé que la presse l'attendait derrière une porte, et au mépris même des protocoles d'après-match qui imposent au club pro un arrêt presse, il est sorti par une autre porte, là où il ne risquait pas de nous croiser. Alors avant de voir ce qu'il faut penser de tout ça, et après avoir rappelé que malgré la situation sportive de QRM, lundi dernier, Manu Lacosta était venu ici et avait fait face à ses obligations médiatiques dans Bienvenue au Club, je vous propose d'écouter ce qu'il nous a dit 3 jours plus tard. C'était donc jeudi dernier, 2 jours avant le déplacement à Hasbrouck. Manu très, très chatouilleux quand on abordait alors le sujet des résultats, des mauvais résultats, qui peuvent fragiliser la situation d'un entraîneur.
Je vais vous répondre une bonne fois pour toutes. Manu Lacosta est bien là. Et le jour où Manu Lacosta considérera qu'il n'est plus à même de travailler et de faire passer des messages, il a beaucoup de fierté, beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté pour partir de lui-même. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'énergie encore. Je ne suis pas pressé comme un citron. Aujourd'hui, je suis là et bien là. Maintenant, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, dans 1 mois, je ne sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas matière à épiloguer. Et la question, c'est la dernière fois que je vous répondrai. Aujourd'hui, je suis là et bien là. Je savais pertinemment que ça allait être très compliqué. Très, très compliqué. Je le savais. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas surpris par rapport à ça. Si j'étais un lâche, je serais parti au mois de mai, au mois de juin, lorsque j'avais des opportunités de partir. Mais aujourd'hui, maintenant, l'exploit, c'est de 2018-2019, rester en Ligue 2. Et s'il faut passer par les barrages pour rester en 2018-2019, on passera par les barrages, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous dis, Manu Lacosta, aujourd'hui, il ne se pose pas de questions, il est droit dans ses baskets, il entend, il écoute. Je sais ce qu'il peut se dire sur moi, mais aujourd'hui, les gens qui me connaissent un petit peu savent que je ne saute pas du bateau quand il coule, loin de là. Au contraire, je sauve tous ceux qui sont dans ce bateau-là. Donc aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on va essayer de se battre, on va rien lâcher jusqu'au bout. Et on a une série de matchs importantes qui nous arrivent. Et la série de matchs, elle commence à Sebrouck.
Voilà, ça c'était donc jeudi, vous l'avez bien noté, dans la salle de presse de Diochon, avec mon confrère de Paris-Normandie, et Victorien Lenu. Manu Lacosta est là, et bien là. Il le répète 4 fois dans un petit montage hein, qui fait 1 minute 30, mais samedi après la défaite face à Sebrouck, alors qu'il y avait pas mal de choses à dire ou à redire, justement il n'était pas là. Il brillait par son absence. « J'ai beaucoup d'énergie encore, je ne suis pas pressé comme un citron », dit-il encore. Je n'en doute pas, mais samedi, après la défaite face à Sebrouck, il n'a pas eu l'énergie, la volonté ou la correction de faire les quelques mètres hein, qui nous séparaient de lui pour s'expliquer. Si j'étais un lâche, je serais parti en mai ou en juin, rappelle Manu. Là, je crois que c'est faux. En restant, il n'a pas fait preuve de bravoure, il a juste choisi le meilleur projet pour lui. Il a eu raison, le projet le plus logique, celui du cœur, le plus excitant aussi, porter sportivement le retour de la Ligue 2 à Diochon. Qui pouvait lui proposer mieux? Pour l'épisode de samedi, je n'ai ni envie de parler de courage ou de lâcheté, mais plus de manque de professionnalisme et de respect. Venir s'expliquer devant la presse est une obligation, et en situation de crise, c'est même une nécessité. Manu passe actuellement son BEPF, le diplôme d'entraîneur pro, il a dû rater un cours ou il a mal compris. Je doute que les pros qui l'encadrent sur le terrain de la communication le suivent sur le terrain du silence radio ou de la dérobade. Pour le déplacement à Sebrouck, Manu Lacosta, sans explication, n'a pas communiqué son groupe. Je ne parle même pas de l'équipe type. Ça, il ne le fait jamais. Il est le seul en Ligue 2 à systématiser les cachotteries ou les feintes de balayeur, avec les résultats que l'on sait. Mais là, face à une régionale 1, on n'a même pas eu le droit à un groupe de 16, ce qui est compliqué pour travailler sur l'avant-match. Comment interviewer un joueur sans savoir s'il va jouer? Samedi à Sebrouck, en ayant poireauté 1 heure devant la porte du vestiaire, j'ai repensé à un mot tout simple, que Manu Lacosta emploie d'ailleurs souvent. Le respect. Le respect de ceux qui travaillent, le respect du seul journaliste normand sur place. 3 heures de route, 2 heures de retransmission, 1 heure à mendier, une interview à nouveau. 3 heures de route et tout ça pour revenir sans rien, sans son, ce qui est quand même la matière première de la radio. C'est un petit peu comme quand la télé rentre sans image. Le respect, c'est aussi d'aller saluer le carteron de supporters qui avait effectué le déplacement. Seuls 3 joueurs l'ont fait. Basque, Kadi et Lopi. Le respect, c'est également de venir s'expliquer. Ça peut être court, on peut ne pas être d'accord, mais ça nous donne au moins l'impression ou l'illusion d'exister. Le pire, c'est le silence et la fuite. Pas très brillant pour un chef de bande de quitter le vestiaire par la porte opposée à celle où vous êtes attendu. Jeudi, Manu nous disait avec conviction, vous venez de l'entendre, « Je ne saute pas du bateau quand il coule, au contraire, je sauve tous ceux qui sont dans le bateau. » Samedi après le match, le bateau, c'était le Titanic, mais Manu, lui, m'a plus fait penser au capitaine du Concordia, qui avait pensé à sauver sa peau alors que son bateau était en train de sombrer. Un dernier mot pour qualifier l'efficacité ou le comportement de ceux qui faisaient tampon samedi. Le responsable de la com du club s'est fait envoyer bouler par Manu, il a le mauvais rôle. Quant au directeur financier et administratif de QRM, Benoît Delon, qui représentait le président Michel Mallet, n'a pas eu l'air ému par la situation, il n'est jamais intervenu, se contentant de dégager en touche en disant « je ne parle pas du sportif ». Alors qu'il s'agissait là, non pas de commenter le match, mais d'un problème vraiment de gouvernance, d'image, de communication. En laissant Manu Lacosta se perdre, il ne l'a pas aidé. Si le président Mallet avait été là, je pense que lui aurait assumé, il aurait parlé, il aurait peut-être eu, peut-être, les mots ou la force pour imposer à son entraîneur une sorte de minimum syndical avec la presse. Vendredi, retour au championnat avec QRM Orléans. Orléans qui vient de se faire sortir également en Coupe de France par une nationale de Chartres sur le score de 3-1. L'US Orléans de Didier, Oli Nicole, dont ce sera le retour à Diochon. QRM a 5 matchs maintenant pour se remplumer avant la trêve. 5 matchs pour prendre 10 points, nous disait lundi dernier, ici dans ce studio, Manu Lacosta. Le match à Sebrouck devait servir à relancer une dynamique, à préparer au mieux ce match de vendredi. C'est raté. Jusqu'à jeudi, Manu Lacosta ne sera pas à Diochon, mais à son BEPF, ce qui va lui permettre de se changer les idées. On l'espère également de revenir plus fort. En attendant, le club, qui se plaint souvent de manquer de soutien, se referme un peu plus. Un court communiqué nous est parvenu dans la journée. Je vous le lis. Sur décision de la direction du club, aucun point presse ne sera organisé cette semaine, avant le match d'Orléans. Ni le staff, ni les joueurs ne répondront aux sollicitations médiatiques cordialement, sans commentaire.
Bienvenue au club, jusqu'à 19h sur France Bleu Normandie.
Dans Bienvenue au club, ce soir spécial Coupe de France, avec la ligne ouverte pour vous au 02 35 07 66 66 de la case pour QRM et le hack du bonheur pour Évreux et toujours de l'espoir pour notre invité Jérémy Prieur.
Jérémy, ça a dû vous arriver, à vous aussi, de ne pas parler après un match. Vous estimez que ça fait partie de votre boulot ou non?
C'est compliqué. Nous, on avait eu des consignes, c'était à l'époque de Pascal Darmon, avec Arnaud Rabani, on n'avait plus le droit de parler à la presse, Paris Normandie, etc. C'était en période délicate où les résultats n'étaient pas là en CFA. Et en tant que joueur, moi, je trouve que parler à la presse, dire la vérité, le problème, c'est que...
On peut pas tout dire, ça, on l'entend.
C'est ça, exactement. Il y a des choses. Après, je pense qu'il y a des fois, c'est pour des réactions à chaud ou c'est pas bon non plus trop. Moi, je sais que je suis quelqu'un de sanguin qui peut, à la suite d'un mauvais résultat, partir un peu dans les tours et puis dire des choses qu'il faut pas dire.
Alors, quand un entraîneur interdit à ses joueurs de parler, vous ne trouvez pas que, d'une certaine façon, vous êtes infantilisé? On vous demande de prendre vos responsabilités sur le terrain, de vous comporter en adulte. Et puis, sitôt le match terminé, on vous traite comme des enfants.
Après, je pense pas que Manu soit le seul responsable des résultats sportifs. Hein. Vous savez, c'est facile quand ça va pas, on tape toujours sur les coachs. Mais
alors, on n'a jamais dit. On n'a jamais dit ça.
Là, ça reste quand
même. Ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Les joueurs doivent se comporter en adulte. Mais ce qui m'étonne encore une fois, c'est qu'on leur demande de se comporter en adulte sur le terrain, de prendre leurs responsabilités, de s'engager, de prendre la parole, de se comporter comme des hommes. Et puis, finalement, lorsqu'ils sortent. On leur parle comme des enfants, t'as pas le droit de parler, attention, tu parles pas à la presse, attention, celui-là c'est un méchant.
Je pense pas que ça ait été dit comme ça, je pense que voilà, Manu lui n'a pas parlé à la presse parce que je le connais un peu, j'ai été sous ses ordres, et je pense qu'il est très très sanguin aussi, il aurait pu dire des choses pas bien.
Une heure après?
Oui, je le connais, il lui faut plus d'une heure pour redescendre, même plus d'une semaine je pense.
Ah, il a un problème de maîtrise à ce moment-là, c'est embêtant parce que...
Je pense pas que ça
fait partie du métier, hein, c'est la ça, communication, d'être capable de faire passer un message sans dire n'importe quoi.
C'est ça, après je pense que les joueurs, t'as certains cadres quand même de Ligue 2 qui auraient dû prendre leur responsabilité et dire bah écoute, nous on va faire front, laisse-nous prendre... Après je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, après le résultat franchement t'as pas trop envie de parler, t'as perdu, enfin c'est compliqué, franchement c'est très compliqué dans la situation où ils étaient.
Alors le HAC lui également est tombé de haut hier, tombé également sur une équipe d'Évreux très, très cohérente, pleine d'envie, qui en a mis 3. 3-2 c'est le score, bid repetita pour le HAC en coupe. Le HAC a été le premier club de Ligue 2 à emporter la coupe en 59, mais depuis 30 ans il empile les couacs avec une régularité pas loin d'être unique. En France, hier, on retiendra le beau but de Fontaine. Et côté com, pro et respect, les joueurs, qui eux sont bien allés saluer leurs supporters, et une relation, disons, normale avec la presse, l'entraîneur Oswald Tonchot était le premier à s'exprimer, et en appelant un chat, et un échec, un échec.
On a été trop neutre dans tout ce qu'on a entrepris. On a sans doute pensé qu'en faisant si peu, ça suffirait, mais la Coupe vous ramène toujours à la réalité de cette compétition qu'il faut jouer et dans laquelle il faut croquer. Si on n'est pas là-dedans, on est puni et... Il y a des garçons qui ont été trop en dessous de leur niveau pour pouvoir tirer l'équipe vers le haut. Et puis certains autres qui, ne jouant pas régulièrement, j'attendais qu'ils en montrent un peu plus. Voilà, on s'est contenté de... pas du strict minimum, parce que le strict minimum, c'est de se qualifier. Et ce soir, il n'y a pas le strict minimum. Et c'est gênant, parce que quand on est un club comme le Havre, on se doit de ne pas faire partie de la catégorie surprise. Et là, on est dedans et c'est... Voilà, être associé à ça quand on est joueur, j'espère qu'ils ont autant d'humiliation que moi, et quand on est entraîneur, ça fait très mal.
En coupe, quand on sort un match ordinaire, ça suffit pas?
Non, c'est même pas ordinaire, c'est en dessous de l'ordinaire et c'est en dessous du minimum. Je pense qu'il y a une histoire d'amour à créer. Il faut aussi se poser les questions pourquoi la Coupe de France et le HAC, c'est cette histoire-là. Ça dénote peut-être aussi des manques dans l'aspect esprit de compétition. On est trop sélectif dans nos motivations. Il y a des matchs en Ligue 2 qui parfois ne nous intéressent pas trop. Il y a des matchs de Coupe de France ou des contextes où on n'y est pas vraiment. Et quand on a cet état d'esprit-là dans le sport, on repousse pas ses limites et on est souvent... On peut passer, mais on est souvent attrapé par la logique et la beauté du sport. Et voilà, il y a des choses à prendre, même chez les équipes amateurs. Quand on est joueur professionnel, il y a des vertus et des valeurs qu'il faut essayer de copier chez les autres. Et on a mis deux buts, on en a pris 3, on a fait tout à l'envers, c'est un non-match.
De ce non-match, on retiendra la rentrée de Moukoudi, qui ne s'est pas ressenti de sa blessure et qui a besoin de faire des efforts, se remettre dans le rythme, avant d'aller affronter vendredi le Gazalec d'Ajaccio. Moukoudi a fait, comme on dit, un match de rentrée, sans éclabousser, mais avec la volonté de vite reprendre toute sa place dans l'équipe. Une équipe en mode mineur et un Harold Moukoudi, qui en vrai calme, malgré son jeune âge, assume devant les micros.
On a fait un match très très moyen pour prétendre passer ce genre de tour. On sait que dans l'engagement, il faut être encore un ton dessus de ce qu'on fait habituellement en championnat. Ça n'a pas été le cas. On sort de cette coupe dès le premier tour, c'est dommage. Et puis, j'ai pas les mots là, franchement, parce que c'est limite une faute professionnelle. Maintenant, c'est vrai qu'Evreux a fait un gros match. Mais je pense que on se devait vraiment de passer ce tour.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos supporters là, qui avaient fait le court déplacement cet après-midi?
Non, on est désolé. Franchement, on ne sait pas quoi dire parce que on connaît la Coupe de France, on sait comment ça se passe et malheureusement pour nous, on s'est fait prendre de piège. On avait fait le plus dur et voilà, petite erreur de concentration et ça va vite. On savait que ça allait vite devant et on se fait tuer bêtement.
Du côté du hack, l'un des joueurs scouté était l'avant-centre Gaëtan Leras. C'est lui qui a égalisé par ses appels, sa vitesse, sa puissance. Il a vraiment confirmé qu'il avait du potentiel.
Il est 18h52 sur France Bleu Normandie. On marque une petite pause et derrière on file dans le vestiaire d'Evreux et on parle du FCR avec notre invité Jérémy Prieur.
France Bleu Normandie. On joue ensemble le Normandie Quiz.
Cette semaine, après les infos de 11h, strass, paillettes, plaisir des yeux et des papilles, vous gagnez votre dîner spectacle pour 6 personnes au cabaret Le Puy Enchanté à Doudeville. N'hésitez pas à tenter votre chance et à vivre un moment merveilleux.
Les pharmaciens Giffard présentent Petites histoires de pharmacie qui deviennent bien plus que des pharmacies. Les pharmaciens proposent de nouveaux services santé. Paul, 49 ans, nous raconte comment il a découvert, grâce à son pharmacien Giffard, qu'il était diabétique.
J'ai toujours été en bonne santé, mais j'avais des coups de pompe énormes. Alors j'ai demandé à mon pharmacien Giffard des vitamines. Il m'a posé des questions pour essayer de comprendre pourquoi j'avais cette fatigue anormale. Je lui ai dit que j'avais tout le temps soif. Et il m'a fait faire un test de glycémie et il a dépisté mon diabète. Et après ce test, il m'a conseillé d'aller voir un médecin qui m'a prescrit un traitement. Alors je fais attention à ce que je mange, je fais du sport et je surveille mes taux au quotidien. Je contrôle mon diabète. Mon pharmacien Giffard m'accompagne et ça me rassure beaucoup.
Avec les pharmaciens Giffard, découvrez plus encore dans le grand dossier de la pharmacie à télécharger sur pharmaciengiffard.com.
Bienvenue au club. La parole aux supporters.
Manuel Kennel, bienvenue au club avec Jérémy Prieur, milieu de terrain et joueur emblématique du FCR.
Et pour Jérémy, le prochain match, ce sera un match de coupe, match qui nous fait saliver déjà, ce sera dimanche prochain, le match qui a été remis à Saint-Brice. Ce sera un peu spécial ce match parce que avant, il y aura le tirage au sort du 8e tour et donc vous connaîtrez votre adversaire. Alors ça peut être un gros. Est-ce que ça peut perturber de savoir ce qu'il y a derrière? Faut jouer les matchs dans l'ordre.
Je pense que non, au contraire, ça doit être une motivation supplémentaire pour nous. De jouer un gros au 8e tour, ça sera très bien. Et si on se qualifie et qu'on sait qu'on affronte encore un petit derrière, ça peut être une chance pour nous d'aller en 32e de finale. Et là, il y a les Ligue 1 qui rentrent en liste, et puis là, ça sent bon, quoi.
Vous mesurez l'attente qu'il y a chez vos supporters de voir le FCR faire un petit bout de parcours en Coupe de France. J'ai même envie de dire encore plus maintenant que Curem a été sorti.
Oui, on mesure l'importance du club aujourd'hui. Enfin, moi, ça fait un moment que je l'ai mesuré.
Et l'importance de la Coupe de France, parce que oui, c'est une espèce d'accélérateur de tam-tam médiatique.
Ça va faire parler du club, et je pense que le club aujourd'hui a besoin d'être dans la lumière après tout ce qui s'est passé, du dépôt de bilan à la fusion, pas fusion. Donc ouais, le club a besoin de retrouver ce statut qui est le sien au sein du Hochon, des beaux matchs, et pour nos supporters qui nous suivent, qui nous ont suivis même de la DH jusqu'aujourd'hui au National 3, c'est vraiment exceptionnel.
Alors en attendant que le FCR soit dans la lumière, c'est Evreux qui fait la une. En 2012, on se souvient qu'Evreux avait sorti le quevilly de Laurent Hatton, hein, 6 mois après la finale au Stade de France, hein, face à Lyon. Et bien hier, à Passy, Evreux a fait encore plus fort en sortant cette fois une Ligue 2, Evreux 3, Le Havre 2. C'est Mohamed Benmansour qui a marqué le but vainqueur, un but sur pénalty, alors qu'il y a une semaine contre Bayeux, Evreux en avait raté 2, 1 par Vincent, 1 par Billot. Hier, c'est Benmansour donc qui allait chercher ce pénalty, puis il l'a transformé, et il raconte pour France Bleu.
Je me lance, je ne sais pas où je vais la mettre, je joue un peu avec le gardien. je vois un peu ce qu'il fait, et je vois ce que je fais. Et au dernier moment, je décide de lui mettre un contre-pied, donc ça a souri.
Et là, qu'est-ce qui se passe dans la tête ?
Là, c'est explosion. On pense à nos proches qui sont venus, on pense aux petits du club, on pense à tous les bénévoles du club, tout ce qui se passe autour, tout l'engouement qu'il y a eu autour de nous. On sait qu'on est en train de réaliser un exploit, donc dans la tête, c'est le feu.
Il y avait pédo.
À l'appréciation de l'arbitre, moi je joue le jeu, j'essaye de faire le crochet et une fois que je suis dans la surface, je sais que voilà, c'est 50-50, donc je sais qu'il va y avoir contact. Je joue bien le coup, pour moi il me touche, mais bon, c'est à l'appréciation de l'arbitre, il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty, maintenant c'est derrière.
Qu'est-ce qui vous fait rêver pour les prochains tours ?
Bah écoutez, à vrai dire, quand on a commencé cette campagne, on s'est dit qu'on voulait jouer une Ligue 2. On voulait prendre une Ligue 2 pour faire plaisir à tout le monde. Maintenant, voilà, on prendra qui on prendra au prochain tour. Et on sait qu'on l'a fait une fois, donc pourquoi pas rééditer l'exploit et aller le plus loin possible maintenant. Il faut qu'on se fasse un kiff. La Coupe de France, c'est aussi ça pour les clubs amateurs. Donc, il faut kiffer jusqu'au bout.
Voilà, on souhaite à Evo, effectivement, de kiffer le plus loin possible. Jérémy, vous avez 29 ans, je crois, vous avez un paquet de matchs en national. Derrière vous, environ 150, je crois, à la Louche, je dois y en avoir 300 en CFA. Vous faites autre chose aujourd'hui, à côté du foot ?
Oui, aujourd'hui, j'ai fait ma reconversion depuis 2 ans et demi. Depuis que je suis revenu à Rouen, je suis commercial en sécurité incendie. Et le foot le soir, donc ça fait des journées bien remplies.
Ouais, j'allais dire, votre semaine, elle ressemble à quoi ? C'est pas la semaine des 35 heures ?
Ouais, non, c'est le lundi, enfin toute la semaine travail, le lundi, mardi, mercredi, vendredi, jeudi, vendredi. Et le foot, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis match le samedi.
Et dans votre tête, quelle est la place aujourd'hui qu'occupe le foot et le boulot ?
Ah, moi je suis un compétiteur, donc les deux 100%. C'est-à-dire que certains disent oui, maintenant... j'ai mon travail à côté, non, moi ça reste, le foot prend encore une grande place pour moi, d'ailleurs je remercie ma famille qui reste patient avec moi parce qu'ils me voyaient pas beaucoup et ça c'est compliqué pour moi aussi, donc je pense pas faire ça éternellement, mais pour l'instant tant que je fais les deux, je serai à fond dans les deux.
Est-ce que vous avez toujours la même émotion en rentrant à Diochon ?
Ah oui, c'est Diochon, ça reste Diochon, hein, surtout avec les supporters. Franchement, moi j'ai fait mes premiers pas, un match contre Passy sur Eure. Je m'en rappellerai toujours.
C'était souvent chaud avec Passy.
Ouais, c'est souvent chaud et franchement, c'est assez spécial. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Tous les joueurs, j'en parlais avec Mustapha Benzia, là, qui me disait, franchement, d'être venu à Rouen, c'est quelque chose, quoi.
Votre dernier défi avec le FCR, ça pourrait être quoi?
Ouais, moi, j'ai toujours dit, j'en avais parlé avec Greg de Paris-Normandie. J'aimerais bien faire remonter le club en national et puis jusqu'en national et puis arrêter là, quoi.
Parmi les joueurs que vous avez croisés à Rouen, quel est celui qui vous a le plus impressionné, parce que vous en avez vu passer des bons.
Ouais, moi j'ai Da Silva, Damien, aujourd'hui à Caen, JP Mendy, Rémi Dugimon. Ouais, j'ai joué avec des bons joueurs. Non, ces trois-là, franchement, ça reste top niveau.
Mendy qui est dans la région, qui est à Wassel.
Ouais, Dugimon, du gâchis. Enfin, voilà, maintenant il arrive à un certain âge, mais. Mais quand je vois encore, je comprends pas certaines choses, mais après, ça reste le foot, hein. Le foot c'est compliqué, mais non, JP c'est un très très bon joueur.
Jérémy, merci d'être venu, même si avec votre match remis hier, évidemment, il a été obligé un petit peu de s'adapter. Dans Bienvenue au Club, on termine avec une note. Alors pour une fois, ce n'est pas nous qui vous notons, mais c'est vous qui notez l'émission. Vous nous mettez quelle note ?
Sur combien ?
Ah, c'est sur 20.
Sur 20, moi, je vous mets 15.
Ah bah c'est pas mal, c'est 15, pas mal. Merci Jérémy, bonne chance.
Bah, c'est moi qui vous remercie.
Le week-end prochain en coupe, nous aussi on rêve évidemment d'une grosse affiche à Diochon. Vendredi, soirée Ligue 2 sur France Bleu avec le déplacement du bac au Gazélec d'Ajaccio sans Bertrand Queneut, hein, qui est toujours au Brésil, pour la Transat Jacques Vabre et bien sûr QRM Orléans avec, on l'espère, un QRM qui aura retrouvé des couleurs et également l'usage de la parole.
Il danse la samba, monsieur Queneut. Merci beaucoup. On retrouve forcément Bienvenue au Club à partir de la semaine prochaine, lundi prochain, sur France Bleu Normandie.
Confo Dépôt, magasin d'arrivage permanent de produits neufs et garantis, zone commerciale de Barentin, vous donne l'heure.
Il est 19h sur France Bleu.